12h30, mercredi et samedi. C'est la chronique d'Astrid Bouygues qui vous met en bouche et vous régale les papilles. C'est l'heure du déjeuner, alors surtout ne vous arrêtez pas de manger en l'écoutant.
L'art à toutes les sauces. La chronique qui ne retient que la part comestible de la culture. Pour être tout à fait honnête, la lecture du livre de Jackie Durand ne me tentait pas vraiment. Le titre d'abord, le cahier de recettes, qui évoquait des pages jaunies couvertes d'une écriture à l'encre un peu passée et sentait son roman nostalgique sur les nourritures d'enfance. La couverture ensuite, qui laissait augurer une histoire sentimentale à souhait, avec son image un peu mièvre, jaunâtre justement. Tout cela me faisait craindre une forte dose d'émotion convenue. Et puis, j'ai ouvert le livre et j'ai tout de suite compris que j'étais totalement à côté de la plaque de cuisson. Car dès la première ligne, il y a cette adresse directe, à la deuxième personne, à la fois interpellation et dédicace. Pas une adresse au lecteur, non, le lecteur n'est convié ici qu'à titre de témoin privilégié, mais une adresse au personnage qui est à la fois, pour le narrateur, la référence constante et le destinataire ultime, celui auquel il parle sans relâche jusqu'à la fin du roman, le père, dont il est partout question dans ses pages, sa présence d'emblée massive. Et dès la première ligne, il y a ses mains. Je n'en finis pas de fixer tes mains sur la couverture de l'hôpital. Ces mains du père en fin de vie, dans lesquelles le fils revoit des mains qu'il a toujours connues au travail, elles m'ont immédiatement attrapé pour ne plus me lâcher. Ces mains, ce sont celles du patron du Relais Fleury, un modeste mais réputé restaurant d'habitués situé en face de la gare dans une petite ville de province, quelque part entre Besançon et Dijon, entre la fin des années 60 et le début des années 80. Des mains de professionnels donc, des mains occupées à fricasser de 7h à 23h. Des mains dans l'intimité desquelles on va vivre au fil des pages, comme l'enfant qui grandit dans la cuisine du restaurant sans les quitter des yeux, quand elles allument la cuisinière à charbon, pétrissent la pâte, pèlent à vif des sanguines, panent des escalopes dans la chapelure croustillante, lavent la tête de porc à l'eau froide, retournent les côtes de veau ou les filets de perche sans prendre le temps au moment du coup de feu d'attraper un torchon pour ne pas se brûler. Avec une grande attention aux gestes, aux techniques, mais aussi aux bruits, aux odeurs, au toucher des aliments, aux saveurs bien sûr et encore aux mots du métier, pas ceux du manuel mais ceux qui sont réellement prononcés devant les fourneaux, Jackie Durand nous offre ici un splendide portrait de cuisinier. Un cuisinier de cette espèce qui considère qu'on fait absolument tout maison dans un restaurant, ou alors ce n'est pas de la cuisine. De cette espèce qui travaille dans le respect des ingrédients, de tous les ingrédients, de la miette à la morille, et qui met un point d'honneur à ne jamais rien jeter, ni le ver des poireaux, ni la carcasse du poulet, ni la peau des oranges. Qui travaille dans le respect des ustensiles, qu'il appelle ses outils. Un homme taiseux et bourru pour qui ce métier, c'est de la générosité. On ne sera pas surpris de retrouver la signature de Jackie Durand au bas de chroniques culinaires dans Libération, ni sa voix sur les ondes de France Culture quand elles se font gourmandes. Toutes les scènes de cuisine du livre, et ce n'est pas la moindre de ses qualités, naissent à l'évidence sous la plume de quelqu'un qui non seulement aime, mais encore connaît vraiment très bien la cuisine. Au portrait du cuisinier se mêle toutefois intimement le portrait d'un père vu par son petit garçon. « Pour moi, tu es le maître du feu. » Un magicien quand tu fais gonfler la brioche, un perceur de coffre-fort quand tu ouvres les huîtres, un roi mage quand tu fouettes la crème chantilly. Et dans ce livre où un plat se cuisine presque à toutes les pages sans que rien ne s'écrive qui ne soit absolument indispensable à l'économie du roman, sans que rien jamais ne fasse figure de simple prétexte à littérature culinaire, si savoureuse soit-elle, un récit lentement s'élabore. Le récit d'une histoire familiale marquée d'un lourd secret, peu à peu révélé, pas à pas, ou plutôt geste après geste, recette après recette, deux souffrances, celle de l'homme et celle de l'enfant, affleurent et s'expriment. Deux vies, celle du père et celle du fils, nous sont contées, avec pudeur. Or, ce récit est sous-tendu par une problématique qui m'est chère. Deux mondes en effet s'y côtoient, s'y observent avec méfiance, se rejoignant parfois, le plus souvent s'affrontant. D'un côté, le monde des gestes, de l'autre, celui des mots. D'un côté, le monde de la connaissance intuitive, de la transmission empirique, de l'oralité, car s'il est plutôt avare de paroles, ce monde-là n'est pas muet. De l'autre, celui de la connaissance analytique, de la description scrupuleuse, de la transmission in absentia, le monde de l'écrit. D'autres mains sont en effet rapidement mises en regard des premières. Des mains plus discrètes, moins présentes aussi, ou plutôt présentes moins longtemps dans la vie de l'enfant. Les mains de la mère. À la difformité de la dernière phalange de l'index du père, vieux souvenir laissé par un hachoir, fait écho une bosse sur la phalange du majeur d'une de ses mains plus fines. C'est la bosse du savoir. Car la mère, elle, est agrégée de lettres modernes. Ses mains tournent les pages des livres, prennent des notes, corrigent des copies, rédigent une thèse sur Crébillon fils. Un jour, elles entreprennent de noter les recettes du père dans un cahier. La cuisine où Lulu, le second, comprend le chef d'un seul regard, la cuisine où tout peut se mesurer à l'œil ou avec le creux de la main, se trouve dès lors confrontée à des questions de quantité et de proportion à consigner, des questions de lexique, d'ingrédients et de gestes qu'il faut nommer pour les noter. C'était une jolie idée que de ce cahier dans lequel la mère demande au père réticent de lui dicter ses recettes. Il aurait pu être le lieu de rencontre de ces deux rapports au monde. Il sera le lieu où se cristallise le conflit. À chaque dictée, vous vous disputiez davantage. Maman écrivait comme pour faire un vrai livre, et les livres t'effrayaient, surtout pour la cuisine. Ils t'éloignaient de maman. Tu ne te reconnaissais pas dans ces mots compliqués. L'intuition, le goût, te semblaient avoir disparu des recettes écrites. Le cahier disparaîtra, peu après la mère, avec ce qui reste du bonheur de l'enfance, et sa perte deviendra d'autant plus obsessionnelle pour Julien que son père refuse de lui transmettre son savoir-faire. Car s'il exerce son métier avec talent et amour, le patron du Relais Fleury n'en est pas fier. Il n'a pas choisi d'être cuisinier. Il est cuisinier parce qu'il faut bien bouffer. Et il est inconcevable pour lui que son fils, qui pourrait appartenir à l'autre monde, celui du savoir, puisse vouloir choisir le métier de cuisinier. Cette tension entre le monde des livres et celui des fourneaux culmine dans une scène emblématique qui se déroule à l'école et fournit, sinon la clé de l'histoire familiale que je me garderai bien de vous révéler, du moins l'une des clés du roman. Le narrateur est en CM2 et la maîtresse a demandé que les élèves fassent à la maison une rédaction qu'ils liront ensuite à voix haute. Sujet : raconter un souvenir de vacances. L'enfant emporte en classe, comme un talisman, le cahier qui contient les recettes de son père et l'écriture de sa mère absente. Il l'ouvre à la page de la mousse au chocolat. Du déroulé de la recette, il tire une authentique scène de vacances en famille. Il n'a rien écrit, il improvise. La maîtresse s'en rend compte et le verdict tombe, assorti d'une punition. On n'écrit pas une histoire avec des recettes. On n'écrit pas une histoire avec des recettes, vraiment ? Que sommes-nous précisément en train de lire alors dans ce livre où toutes les pages sont des recettes en action ? Ce livre où leur succession forme le récit d'une vie ? Que sommes-nous en train de lire, sinon, symboliquement, la mise en récit du fameux cahier ? Et qu'est-ce que cette mise en récit, sinon la réinterprétation, avec les outils du fils, de l'héritage paternel finalement transmis ? Ce livre, qui n'aurait vraiment pas pu s'appeler autrement que le cahier de recettes, est bien le résultat d'une double transmission, celle des gestes et celle des mots. C'est lui, l'enfant né de cette histoire d'amour qui aurait pu réussir, qui a donc, en un sens, réussi. Le cahier de recettes avait été le lieu du conflit. Le roman, intitulé « Le cahier de recettes », devient le lieu de la réparation, celui de la réconciliation entre les deux mondes. Le monde du savoir et celui du savoir-faire, qui est aussi un savoir. Je pense, à contrario, à Rimbaud, qui, cherchant à réhabiliter le travail du poète, arguait que la main à plume vaut la main à charrue. Et à Queneau, qui y fait allusion en intitulant un poème « La main à la plume ». Comment sait-il déjà ce poème de battre la campagne ? Ah oui, j'écrirai des poèmes sur le lait, le beurre, la crème. Et je me marre en me disant qu'avec Jackie Durand, ce qui vaut la main à plume, ce n'est pas la main à charrue. Ce qui vaut la main à plume, c'est la main à poil. Avec un accent sur conchose, bien sûr. Alors oui, Il est question ici de nourriture d'enfance et de transmission. Mais rien n'est moins convenu que l'émotion née de ce récit juste, sobre et sensible, âpre et cruel par moments. Un récit qui est tout à la fois un extraordinaire répertoire de sensations et une magnifique déclaration d'amour filial. Moi qui vis dans les livres, en refermant celui-ci, je pense... Non, c'est faux. En refermant celui-ci, je pleure un bon coup. Puis, je pense que j'aimerais bien savoir faire le fromage de tête. Je veux dire, savoir le faire de tête. Partir de rien, un quignon rassis, un reste de viande, sans recette, sans prise de notes, sans paroles superflues, en suivant juste mon intuition. Sans en faire tout un fromage, quoi. Il y a d'ailleurs un tas d'autres choses que j'aimerais bien savoir faire, comme le fromage de tête. Tenez, cette chronique, par exemple.
C'était la chronique d'Astrid Bouygues, l'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.